Cascodeur Podcast, épisode 305, DIA Critique. Enregistré le 12 janvier 2024.
Les cascodeurs, allez sur lescascodeurs.com/sondage. Ça nous permet d'avoir un peu d'informations sur ce vers quoi vous voudriez orienter les cascodeurs. Voilà, merci de votre participation. Ça dure 5 petites minutes normalement. Bon épisode! Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans un nouvel épisode des cascodeurs dans une nouvelle année.
2024.
Meilleurs vœux. Ouais.
Bonne année.
Bonne santé.
Voilà. Et puis.
On s'est dit pareil en 2020. Oui, et il y a trois mois après, c'était le Covid. Donc bon, je propose de. Hein.
Bah, on est encore vivants.
Chez soi,
ça a marché.
Et les vaches seront bien gardées.
Les vaches seront bien gardées.
Bon. On va démarrer par pas une bonne nouvelle parce que justement
chaque année non mais à Noël moi je sais pas vous mais ouais, je reçois ouais. des listings
de morts
des morts oui de qui de genre qui va
à l'enterrement
quels sont les gens qui vont c'est un peu c'est pas très sympa comme listing,
hein,
mais
de
vraiment de parier.
Top 10
oui,
des morts,
oui, oui.
Ah, ouais, t'es comme ça,
des top 10 des gens. Mais en fait, c'est, je dirais pas qui, c'est mon frère qui m'a envoyé une liste de personnes. Et en effet, on va démarrer avec Niklas Wirth. C'est, on le dit comme ça.
J'imagine pas. Parce qu'il était suisse.
Il était suisse, oui.
Ouais. Niklo, ouais, je sais pas comment on dit en fait.
Bon alors, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur?
Ce monsieur est, du coup est décédé le 1er janvier, pardon, et des vieux parce que il était pas tout jeune, voilà.
Ouais,
ça va, il a eu espérons qu'une belle vie. En tout cas, il a été très très récompensé parce que il a été le créateur de différents langages de programmation, dont celui par lesquels j'ai appris à coder quand j'avais 17 ans à l'école.
Le Pascal.
Et voilà, et du coup, il a même gagné du coup, les Turing en 1984.
Le Turing Award,
ouais. Un autre prix que je connaissais pas moi personnellement parce que je suis un vrai très ignorante. qui s'appelle John von Neumann en 1994 et en plus il y a un prix à son honneur qui a été créé en 87 et donc il a écrit plusieurs ouvrages dont un paru en 1976 Algorithme et Data Structure et donc voilà et on connaît aussi la loi de Wirth qui justement c'est la loi de KISS, de Keep It Simple. Et finalement c'est le on pourrait justement l'appeler plus Nicholas Wirth. C'est beaucoup plus je pense tu vois les gens qui portent des lunettes hyper intello je propose qu'on au lieu de KISS ça fait beaucoup plus Keep It Simple ça fait beaucoup plus
rockstar.
Ouais, rockstar ou...
Ou alors, faut mettre du rouge à lèvres.
Hipster, ouais, ou hipster, ou, oui, ou rouge à lèvres, ouais, plus... ça
bon,
fait différent.
Là,
ouais.
Vous n'avez pas la vidéo, mais là, on est quatre à avoir des lunettes.
Janvier, là. Donc, à partir de maintenant, je vais dire, on va... Let's apply the law of Wirth quand
alors
je veux simplifier
là,
du code.
Dis-là quand même. Donc, le code devient plus lent, plus rapidement que le hardware devient plus rapide. Donc
c'est ça, Niklo. Voilà. Il a toujours prôné la simplicité, la lisibilité et la compréhensibilité.
Alors, Niklo, il a aussi créé un langage qui s'appelle Modula 2. Et ça, pour le coup, moi, je connais aussi parce que qu'à la fac, j'ai fait des trucs totalement inutiles. Hein. J'ai écrit une thèse sur Corba et j'avais fait un...
Le grec.
Et j'avais fait un programme qui traduisait du Modula 2 en Prologue.
Ouf.
Voilà.
Ça c'était utile pour le coup,
c'était
par rapport à Corba.
C'était super utile. Donc j'ai fait 2-3 trucs hyper utiles dans ma vie. Donc merci Niklaus, c'est grâce à toi que j'ai
Moi, j'étais un super fan de Pascal, de Turbo Pascal. J'avais commencé avec du Basic, et après, pendant des années, j'ai fait du Turbo Pascal, et j'ai eu du mal après à passer à autre chose, c'est plus plus, parce que j'étais plus productif en Pascal. J'ai vraiment bien aimé.
Niklaus Wirth a été un des pionniers, parce qu'il y avait tout à inventer, donc voilà, quand tu découvres un champ des possibles, voilà, et donc il était très influent là-dessus. Voilà, on va passer maintenant à la catégorie langage avec, c'est plutôt librairie, mais on va le démarrer là. Je crois que c'est Arnaud qui faisait du Hibernate et qui se demandait comment on code le égal et hashcode, equals and hashcode pour les entités.
Punaise, ça fait 20 ans qu'on se pose cette question.
Ça fait 20 ans qu'on se pose cette question et ça avait, il y a 20 réponses possibles en fonction des gens. La réponse simple que je lui avais donnée, c'est que si tu fais pas de collection avec des sets ou ou des maps avec des clés d'entité, en gros, c'est pas vraiment un problème. Sauf si tu fais du détache et réattache, voilà, il y a de la simplification de code qui permet de pas avoir à se poser le problème. Le point clé, c'est que quand Hibernate doit regarder qu'il y a une entité qui en charge une autre, il doit regarder si c'est les mêmes. Quand il tombe dans ces cas-là, il faut qu'il puisse résoudre le problème. Et le problème, c'est qu'une entité, elle n'a pas toujours son identifiant quand on la crée. Voilà. Et du coup, ça pose des problèmes puisque le equals et le hashcode, ça, c'est fondamental dans le langage Java. Il ne faut pas que ça bouge. Le hashcode, il doit être constant et le equals, il doit être constant au fur et à mesure du temps aussi. Et donc, si vous basez sur l'ID qui est nul avant et qui après passe à une valeur, ça casse des choses, notamment dans les sets. Voilà, du coup, c'est toujours un peu la panique. Et du coup, on va pas vous donner toutes les options, mais il y a Arnaud qui nous a fait une liste d'articles, notamment de...
De Vlad.
De Vlad, ouais.
Et il y en a un qui est hyper intéressant, parce que là, tu vois, Emmanuel, tu parles d'Hibernate, et il y a un post de Vlad où il cite Mark Strugberg, qui dit oh là là, il faut pas faire dans les entités, il faut pas mettre de to string parce que ça risque de faire du lazy loading. Pareil pour hashcode et equals. Et puis en fait Vlad dit bah non, avec Hibernate non, mais il utilise OpenJPA, oui. Et là je pense que c'est typiquement, après j'ai pas lu l'aspect JPA, mais c'est typiquement un point où l'aspect en parle pas trop, et selon l'implémentation, vous avez des cas différents. Donc
bah, fondamentalement, si ton toString il va aller lire la collection des, bah, si c'est un utilisateur et que vous allez lire toutes les adresses et puis vous les affichez dedans, bah, évidemment à un moment la donnée il faut qu'elle soit chargée. Mais du coup soyez juste un petit peu, enfin pas brutal et dans ce que vous mettez dans le toString en fait. Voilà. Ensuite, bon, ça y est, Kotlin, c'est le début de la mort.
C'est mort.
J'adore, mais c'est pas cette année.
C'est l'année prochaine. C'est 2025.
Peut-être. C'est toi, Guillaume, je crois, qui avait trouvé cet article.
J'avais trouvé l'article intéressant. Alors bon, moi, j'ai un parti pris éventuellement pour un autre langage, même si on n'en entend plus parler.
Qui commence par un mais... G, qui finit par un Y, avec un OOF.
Mais justement,
dedans.
Donc, ce un que ouf. Disait l'auteur, ouais, Kotlin, ça va faire un peu comme les autres langages alternatifs, comme Groovy, Scala, ils ont décliné, on n'en entend plus parler. Et il pense qu'il y aura aussi, mais ça, on le disait aussi, hein, pour Scala, pour Groovy et d'autres, il pense qu'il y aura aussi moins de différenciants par rapport à Java, parce que toutes les nouveautés de Java, vu que ça se développe quand même un petit peu plus rapidement que, on va dire, entre Java 11 et au-delà, ou Java 8 et au-delà.
Donc, là, on est à Java 33, donc...
Voilà, c'est ça, 20 et des poussières, on compte plus maintenant. Et il a aussi l'impression que Kotlin n'évolue plus tant que ça en tant que langage. Après, moi, je dirais aussi qu'il est quand même assez mature. Souvent, on a l'impression, quand on regarde ou quand on voit les réactions des gens par rapport au projet open source, ah, il n'y a pas eu de commit, il n'y a pas eu de nouvelles features. Ouais, mais peut-être que le projet est mature, il n'y a pas besoin de rajouter 40 000 fonctions tout le temps. Et au bout d'un moment, si le projet, que ce soit un langage ou autre chose, hein, fait son taf, il n'y a pas forcément besoin de rajouter des choses, à part le maintenir à jour, upgrade de version, des dépendances, des choses comme ça. Donc voilà, c'est... c'est un peu un article, c'est un peu une controverse, mais donc je sais pas. Est-ce que après il se focalise sur pas mal de choses, sur multiplateforme, sur WebAssembly, sur des choses comme ça. Donc c'est pas des fonctionnalités niveau langage, mais ça veut pas dire forcément que il va pas continuer d'évoluer. Mais voilà, c'était intéressant pour une fois de voir un petit contrepoint par rapport à Kotlin, c'est super de partout quoi.
Mais ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est que les vieux de la vieille, ils se souviennent des versions de Java mises à jour tous les 3-4 ans. Et je pense que qu'on ait des releases tous les 6 mois avec à chaque fois des nouveautés, bah, à redonner un petit coup de peps au langage Java. Et bah oui, les langages évoluent toujours un petit peu. Et nous, on a un langage qui maintenant évolue tous les 6 mois. Et enfin, il parle de Groovy, effectivement. Groovy avait les lambdas avant Java, et puis bah maintenant, on n'en parle même plus dans le langage Java parce que c'est dedans. Voilà. Bon, écoutez, je pense que les articles Java va décliner en 2000X, on les a tous lus, donc à voir.
C'est pareil. Ouais. Tiens, je vais continuer là. J'avais fait un petit article. comment enlever les accents, les choses comme ça dans les chaînes de caractères en Java, donc toutes les marques diacritiques comme on dit, donc que ce soit les accents, les cédilles, des choses comme ça. Et c'est marrant parce que en fait il y a genre presque 20 ans sur mon blog, un des articles qui a toujours été populaire, c'était justement comment enlever les caractères comme ça, accentués un peu spéciaux dans les chaînes de caractères. Et donc typiquement un des use cases, c'est quand on veut avoir un ID un peu friendly qui passe bien dans les URL. Par exemple, quand on fait des blog posts, il y a la notion de slug, c'est-à-dire des URL. Je sais pas moi, si je dis l'été il fait beau, on veut enlever remplacer les guillemets comment on appelle ça, l'apostrophe par un tiret, on veut enlever et de été par des E, etc., pour avoir des URL toutes simples, juste en ASCII avec des tirets et tout ça. Donc j'avais fait un article là-dessus. Alors j'ai repris un petit peu ce que j'avais fait à l'époque, mais il y avait deux choses. Donc ça marche bien pour les langues, avec un alphabet type romain, etc. Et par contre, comment on fait pour d'autres langues? Et c'est là que j'avais vu cette petite librairie qui s'appelle Slugify, qui fait justement, qui traite de ce problème-là, et qui utilise aussi la librairie ICU4J, la librairie de support Unicode, qui à la base, je crois que c'est IBM qui avait fait ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc il existe pour C++ et Java, puis ça a été traduit aussi normalement pour d'autres langages de programmation. Et là, ce qui était cool dans cette petite librairie-là, c'est que ça utilise ICU pour faire de la translittération, c'est-à-dire quand on utilise des idéogrammes, des caractères hiragana, katakana et compagnie du japonais, en fait, il fait de la translittération, c'est-à-dire il écrit en lettres ASCII un petit peu là, plus ou moins la prononciation approchée des caractères étrangers. Donc ça, j'avais trouvé ça pas mal. Après, bon, j'ai eu un débat aussi sur Twitter là-dessus, parce qu'il y a d'autres petits problèmes, le Slugify qui tire l'ombok dans les dépendances, alors que, je veux dire, à la compilation, je veux bien, mais au-delà, je ne sais pas pourquoi ça fait partie des dépendances, mais bref, l'idée était intéressante, et Slugify aussi traite les cas que la mise en forme normale des chaînes de caractères Unicode qui permet d'enlever facilement les accents. Par exemple, ils traitent pas correctement certaines choses dans des langues. Par exemple, le O avec un umlaut en allemand, quand on le romanise, il faudrait l'écrire OE et non pas juste O sans accent. Donc Slugify rajoute des petites routines ou petites méthodes, petits traitements particuliers pour certaines langues. Donc voilà, à regarder, et puis si jamais ça vous arrive d'avoir besoin d'identifiants qui correspondent à des titres ou des choses comme ça, mais qui passent bien dans les URL, ça peut être une bonne idée.
Bah moi, pour les cascodeurs, je les connais, mais en bash, j'ai une regular expression qui prend tous les accents qu'on a tendance à mettre dans les articles, dans les titres de l'épisode, et bon, temps en temps, il y a un bug, alors je rajoute une nouvelle règle.
Une nouvelle règle, d'accord.
Ouais.
Et par rapport le débat sur Lombok Twitter, parce que moi j'aime quand c'est courtillant. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était quoi ce que les gens disaient?
Ben, alors j'ai pas.
Il y a eu un petit drame ou pas? S'il y a pas
non. Chose, avec Lombok, il y a toujours des drames.
Bah, ouais, c'est ça le problème. C'est super polarisant Lombok. Donc effectivement, il utilise un builder qu'il aurait pu coder à la main parce qu'il y a vraiment juste une classe, la classe Slugify, qui utilise Lombok pour générer le builder pour ça. Donc, c'est peut-être un peu exagéré. Et en plus, donc j'ai pas vérifié, mais si j'ai bien compris, et comme je suis pas doué moi avec les outils de build, que ce soit Maven ou Gradle, mais la manière dont est déclarée la dépendance, elle vient au runtime, alors que Lombok, t'en as besoin juste à la compilation quoi, pour créer le builder, mais pas après, au-delà, pour le runtime. Donc ce qui est un peu idiot, donc faudrait... Ouah, c'est juste pour moi un bug à corriger, voilà.
Ah, une pull request à
ouais,
faire.
Ouais. Voilà, mais bon, faudrait mieux que ce soit quelqu'un qui se connaisse mieux avec Lombok et Maven que moi, donc j'ai pas forcément envie de le faire. Donc voilà, c'est la petite polémique, mais après, dès qu'on parle de Lombok, les gens... Oui, non, Lombok, c'est bien, non, c'est pas bien, ça modifie le bytecode, ça, machin. Et là, il y a pas longtemps, il y en avait eu encore une autre polémique récente sur Lombok, sur Twitter, là. Enfin, sur X, pardon. Donc, ça n'arrête jamais. Ah oui, mais si, d'ailleurs, c'était Graham Rocher, hein, qui avait lancé ça, qui a dit, ouais, Lombok, je sais plus ce qu'il a dit, mais bref, c'est l'enfer dès qu'il y a Lombok, ouais. Après, moi, j'aime bien les gars de Lombok, je les ai rencontrés à Devox Belgique, et ils étaient tout gentils, là. Enfin, ils sont deux, je crois, il y en a un qui est grand et costaud, là,
Laurel et Hardy.
Ouais, mais il est super gentil, en plus. Et on avait pas mal discuté il y a longtemps avec le projet Groovy, parce que Groovy aussi fait des choses, alors c'est pas avec pas de la même manière que Lombok, mais enfin je veux dire tout ce qui est builder, etc. On a plein de choses qui sont inspirées de Lombok, et Lombok s'est aussi inspiré de certaines choses qu'on a fait, donc les transformations d'AST en Groovy, des choses qu'on a fait en Groovy. Donc voilà, je l'utilise jamais Lombok, mais bon, c'est...
Les gars sont sympas.
Sont sympas.
Allez, on va passer au Gatherers du JDK 22. Il me semble qu'on avait parlé dans l'épisode d'avant, ouais. Mais là,
il est toujours en preview.
Un blog post. Hein, dans... Ouais.
Donc, on l'avait mentionné déjà. Donc, il y avait mon copain Paul King du projet Groovy qui avait fait un article qui comparait un petit peu ce que faisait Groovy et ce que les Gatherers vont permettre de faire dans JDK 22, en tout cas en preview pour l'instant. Et en fait, c'est donc on peut faire plein de choses avec les streams aujourd'hui. Il y a plein de méthodes diverses et variées. Par contre, il y a des choses qui restaient toujours un petit peu chiantes à faire. Alors moi, un des exemples que je prends toujours, c'est par exemple faire des sliding windows,
des fenêtres glissantes,
des fenêtres glissantes sur des données, voilà, des vérandas sur les données. Et en fait, à faire avec les streams, c'est chiant à faire. C'est compliqué, c'est tout de suite 20 lignes de code ou un truc comme ça. Donc il y a différentes choses. Donc ça, voilà, c'est un des trucs. Et en fait, les gatherers, ils sont séparés en plusieurs types. Les intégrateurs, les initializers, les finishers, les combiners, et qui gèrent plusieurs choses. Par exemple, initializer, finisher, qui vont pouvoir faire des choses au début, à la fin de la gestion du stream, combiner les choses.
Non, ça, c'est les méthodes du gatherer, ça.
Non, c'est les... Attends.
C'est les méthodes du gatherer, ça.
Les méthodes du gatherer, oui. Je croyais que c'était des types de gatherer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Enfin, en tout cas, ça va permettre de faire des choses, de gérer des données, des streams de manière un petit peu plus facile, en tout cas.
Ouais, typiquement pour la fenêtre, vous avez l'intégrateur qui va avoir l'état de la fenêtre et puis rajouter un et enlever le plus vieux.
Le plus vieux.
Le combiner, ça serait... Alors pour la fenêtre, c'est un peu plus touchy à implémenter parce qu'il y a une notion de temps, mais c'est de pouvoir paralléliser le travail et de merger deux fenêtres en une seule, en fait. Voilà. Par exemple.
Donc l'article, en tout cas, montre différents exemples et les différentes méthodes du gatherer. Donc c'est assez bien illustré. Du coup, je l'ai trouvé pas mal. Donc par rapport à l'article que moi, j'avais partagé la dernière fois, où ça comparait Groovy, Java, mais il y avait aussi des implémentations en Java, comment le faire avec les gatherers. Mais là, du coup, ça se focalise vraiment juste sur Java, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal.
Allez, on va passer aux bibliothèques de code, et le Bundestag va investir dans Log4j. C'est ça?
Ouais, j'avais vu cet article. Donc, il y a donc, ce fonds souverain pour la tech souveraine, et qui vient de... Donc, a été créé en Allemagne. En tout cas, je ne sais pas exactement qui y participe. C'est vraiment juste l'État allemand, etc. Et du coup, on se rappelle de ce qui s'est passé à l'époque. C'était quand déjà Locke-Forchel là,
Oh, c'était l'année dernière. Hein.
Non, c'est il y a
non,
deux,
c'est plus vieux que ça,
deux, deux ans.
C'était en 2022.
Hein. Ouais, ça passe super vite.
Parce que du coup, moi, des fois, je me dis, c'était avant
c'est
le Covid.
C'est ma phrase,
ou après
Antonio,
le COVID
normalement. Hein. Ça va trop vite, c'est ma phrase,
ça
normalement.
Va trop vite.
Et du coup, donc le.
En tout cas, le fonds souverain, il va pas trop vite.
Le fonds souverain. Oui, bah, là, mais trois contributeurs pour bosser un plan temps sur leur forgie.
C'est plutôt pas mal. Après, je veux dire, c'est juste une librairie de log. Hein. Je veux dire,
mais à temps plein. En fait, il y a du boulot à temps plein pour leur forger.
Bah, je sais pas.
Du consulting.
C'est ce qu'on a discuté avant. C'est un moment, c'est mature. Tu rajoutes des fonctionnalités ou t'arrêtes? Parce que, en fait, le
support de JNDI.
JNDI.
Ouais, le problème de l'Occident, c'est qu'ils se sont mis à supporter JNDI, qui est genre, what? Dans les expression language, quoi. Donc, c'était,
ouais.
Bref.
Mais voilà. Donc, c'est un truc quand même intéressant, je pense, de voir ce genre de choses. Parce que des fois, il y a certains projets open source qui mériteraient d'être donc là ça fait partie des comment on appelle ça les commons là les petits trucs utilisés partout dont tout le monde dépend plus ou moins plein de projets en dépendent et du coup comment s'assurer de leur pérennité au cours du temps et que bah des problèmes de ce type qu'on a pu avoir avec Log4j et Log4Shell ne se reproduisent plus et qu'on garantisse quand même un petit peu que ces briques de base puissent être maintenues et activement quoi.
Ouais. Et ce Sovereign Fund Tech Fund investit aussi dans Curl. Donc, ils investissent dans d'autres projets, Log4j et Curl. Et là, peut-être qu'il y a un peu plus de boulot sur Curl que sur Log4j. Mais voilà, c'est marrant de voir qu'il y a ce fonds d'investissement souverain allemand.
Parce que Curl, c'est pas living off the land, comme ils disent en sécurité, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est souvent installé dans les images de base.
Tellement de trucs, ouais. Et puis apparemment, il y a aussi beaucoup de devices divers et variés. Dans ta voiture, il y en a. Enfin, il y en a vraiment partout du curl. Et parce qu'il y a besoin de se connecter à des services, à des choses comme ça, de récupérer des données, des mises à jour. Et du coup, c'est un peu la brique de base qui permet de se connecter à Internet et récupérer des fichiers et interagir avec des API de partout, pas que dans nos distributions Linux.
Le software, la R18, ben, elle est plus supportée.
Ben voilà.
Alors, je sais pas vous, mais à chaque fois que je vois des fringues rip curl, ça me fait un peu marrer, mais bon.
Mais non, on veut pas qu'il meure, hein, curl.
C'est vrai. Allez, on va passer au nuage, au cloud. En tout cas, la Cloud Native Foundation, en fait, c'est gros. Et donc, ils ont construit un glossaire et ils viennent de le traduire en français.
Exactement. Donc, si vous voulez avoir, ce que j'ai pas vérifié d'ailleurs, c'est est-ce que ils sont amusés à traduire, enfin, auto healing, c'est devenu auto réparant, etc. Mais cluster, par exemple, ça reste quand même cluster, je crois.
Cloud computing, ça reste.
Ouais, conteneurisation, c'est vrai que ça peut se franciser et ça ressemble vraiment au truc habituel.
Ce qui est quand même super, c'est contrôle d'accès basé sur les rôles. Ouais. Airbag, ouais, bon, et là tu dis après, pas mal. Les mecs, ils ont gardé le R, le B, le A, le C dans l'ordre inverse.
Bah, la fondation pour le calcul natif dans les nuages. C'est
le déploiement bleu-vert que je trouve rigolo, moi.
Ah oui,
ouais, l'architecture zéro confiance. Voilà.
Ouais. Zero trust.
Donc voilà, c'est ce qui est toujours difficile, hein, honnêtement. C'est ça, c'est de trouver ce qu'on devrait traduire et ne pas traduire ce qui est vraiment très répandu et facile à comprendre et etc. Et par exemple, nous, côté Google Cloud, mes collègues et moi, l'équipe de Paris, on avait participé, parce qu'en fait, maintenant, la documentation de Google Cloud est traduite automatiquement, mais elle a été guidée et drivée et améliorée par, on va dire, l'être humain pour améliorer la traduction, pour faire en sorte que, ils s'amusent pas à traduire mot pour mot bêtement, mais que les concepts techniques, ces choses-là, restent parfois en anglais ou on trouve le bon équivalent en français s'il existe. Et honnêtement, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile.
Ouais. Bon, après, je vois pas maillage de service. Maillage de service, je trouve ça à la limite plus clair. Moi, mesh, je sais pas pourquoi, mais ça m'a jamais parlé aussi bien qu'un maillage.
Le maillage, c'est vrai que c'est mieux, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Même si, voilà, c'est pas le terme qu'on utilise habituellement, mais c'est mieux.
Après, je sais pas vous, mais à force de lire des articles, tu vois, souvent en anglais quand même, je sais pas, mais tu vois, si t'as IAS, bah, c'est IAS, quoi. Enfin,
c'est devenu un mot, en fait.
On lit pas du Shakespeare, donc moi, un article traduit en français, enfin, lorsque j'ai le choix, hein, lorsque vous allez sur 1001 plateformes, souvent vous avez une URL EN, FR, PT. Je force à EN parce que bon,
pareil. Après,
je suis un peu perdu quand même avec les traductions. Bon,
je fais pareil.
Mais c'est un privilège que t'as parce que tu travailles en anglais tous les jours. Je sais que
c'est clair,
on voit à Devox, les gens ils préfèrent à deux sujets identiques qu'ils vont aller voir la version française.
Enfin bon, c'est pas du Shakespeare quand même. Hein. Quand on lit des articles, si t'as 3000 mots, c'est le bout du bout. Bon et puis
en général,
temps avec Bard ChatGPT, tu peux dire réécris cet article à la Shakespeare et puis paf. Bon allez, on va passer à notre catégorie favori.
Non.
Alors Vue.js 3.4, c'est moi qui l'ai mis. Moi j'aime bien Vue.js et c'est vrai que quand je fais du front, ça m'arrive pour des démos, des petites applications, des choses comme ça. J'aime bien utiliser Vue. J'ai joué il y a pas longtemps sur HTMX. C'est rigolo quand même. Mais bref, donc je reviens à Vue 3.4. Donc il y a la notion des composants où en fait on a des fichiers. Alors je sais plus ce que ça veut dire. SFC, single file component, je crois. Voilà, tout simplement. Où en fait un composant, c'est quoi? Bah c'est la structure, on va dire. HTML, c'est le CSS et c'est le JavaScript pour le côté dynamique du composant. Et donc, il y a un fichier, c'est un peu comme du HTML où on peut mélanger des balises HTML, CSS et du coup du JavaScript finalement. Mais en tout cas, il y a un parseur qui parse ce type de fichier-là et ils l'ont réécrit ou amélioré, je sais plus. Et il est deux fois plus rapide qu'avant. Donc, ça va charger beaucoup plus rapidement les composants. Ils ont amélioré aussi le système de réactivité, en particulier pour ce qui est des propriétés recalculées, les computed. Donc, par exemple, quand une propriété dépend d'autres propriétés, je sais pas, on va dire une somme de A et de B, bah, la somme C, elle est recalculée automatiquement. Donc, ils ont amélioré ça aussi. Donc, ça doit être plus rapide ou il doit y avoir peut-être moins de cas tordus aussi. Ils ont supprimé le namespace JSX qui était inclus d'office, je crois, plus récemment. Donc, ils l'ont déprécété, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut plus utiliser JSX, mais on doit pouvoir le réimporter et tout ça. Et nos amis de Ninja Squad avec Cédric Exbraya a fait aussi un article, donc j'ai rajouté ça après, qui explique justement toutes les nouveautés de Vue 3.4 en détail avec les nouveaux... Les nouveaux raccourcis de syntaxe avec VBind, avec qu'est-ce qui couvre aussi, voilà, des nouvelles choses. Watch, qu'on peut appeler, mais juste once, dès qu'il y a juste un changement et après on watch plus, des choses comme ça. Donc ça, c'est couvert avec des petits exemples, un très bon article, au-delà juste du lien avec l'annonce. Voilà.
D'accord.
Oui, et on a rajouté plus que ça, dans les news. On ne s'est pas arrêté à un seul article front parce qu'on a fait un petit effort cette fois-ci. et donc, j'ai découvert, je ne sais pas si vous connaissiez, peut-être qu'on en a déjà parlé, AstroJS.
Ah, Astro, le petit robot.
Une librairie qui fait de l'astrologie.
Regardez ça quand j'étais petit.
Non, voilà, c'est un framework. J'ai découvert ça dans le Frontend Weekly de Medium par Petit Pois. C'est marrant, en fait. J'ai bien aimé son pseudo, c'est pour ça, ou son nom, Petit Pois, qui a écrit cet article. Et en fait, c'est un framework web pour construction de sites comme des blogs, du marketing, e-commerce. Et en fait, il est assez connu... pour être pionnier dans l'architecture front-end qui permet de faire des sites qui sans JavaScript mais aussi avec du JavaScript dans lesquels tu vas avoir une architecture en composants et qui peut du coup faire les SSG qui est Static Site Generator ou de Server Side rendering. Et en fait, tu peux du coup faire tes sites web en faisant des composants, donc dans ce cas-là avec JavaScript, aussi en React, Angular ou Vue. Et puis du coup, c'est un framework qui apparemment a pas mal de popularité de plus en plus, en tout cas. Et c'est la sortie de la version 4.1 qu'il y a eu. Donc voilà, mais c'est assez sympa et je vous laisse le découvrir dans le blog de la compagnie, je pense, qui l'a fait. Et j'enchaîne du coup avec, en parlant qu'on a parlé de Vue, avec React, qui a 10 ans.
Ah,
et moi, j'ai React, j'avais, en tant que front-end en intérimaire, j'ai fait du Angular quand j'étais freelance. Et puis après, j'ai fait du front React, je le dis plusieurs fois, avec un framework de composants qui s'appelle Patternfly. Et je trouve que React, moi, j'adore en fait. C'est vraiment super pour créer des interfaces voilà, un client-side rendering et les back-end, tu fais comme tu veux, mais faire du SPA en front avec React.
Katia, mais non, tu le fais en Quarkus.
Très cool. Bah, le back-end. Le back-end, on le fait comme on veut, mais si c'est en Quarkus, ça va être beaucoup mieux, en effet. mais sinon, voilà, les fronts en React, moi, j'aime beaucoup. Et en fait, ça m'a surpris de voir que du coup en fait en React tu peux faire du coup du client front et aussi faire dans ton backend donc avec Node par exemple de le rendering de l'appli JS, tu le files au client et après le client prend la main et il va faire toute la partie de rendering côté client. Mais il y a une nouvelle truc qui s'appelle React Server Components, qui est dans l'article que j'ai lu, c'est assez récent, il parle que c'est un nouveau paradigme. Et en plus, c'est marrant parce qu'il dit « this new world », mais pour moi, c'est pas du tout « new world » parce que nous, on a fait ça longtemps avec les portlets ou d'autres types de technologies dans l'écosystème.
Ah, là-bas. Les portlets.
Mais en gros, c'est ça, que tu as des composants qui sont re-renders dans le serveur. Et donc, la partie rendering des composants n'est pas déléguée au client, mais ça reste dans le côté serveur. Et donc, tu es plus proche normalement de bases de données et d'autres choses, qui fait que ça peut améliorer les performances et tout ça.
Et c'est moi ou ils ont réinventé JSF là aussi?
c'est marrant, mais en tout cas c'est un truc qui est là et qu'on commence à en parler pas mal. Donc c'est t'as la partie tu fais que client ou même un truc rendering serveur aussi, mais ces composants là.
Du coup, faut que ça soit du JavaScript et du coup du Node, du Node côté serveur, ou est-ce que en Java, je vais pouvoir générer en gros l'équivalent de ce que le React,
honnêtement, je sais pas.
Côté client React, ok.
Honnêtement, je sais pas. Ça c'est à creuser et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand je l'ai lu. Et ça serait intéressant qu'on trouve peut-être quelqu'un pour faire une interview.
Quelqu'un nous faire un petit podcast ou voir une interview.
Ouais. Ouais. Une interview à ce sujet parce que ça a l'air. En tout cas, moi, ça m'a interpellé, surtout le this new brand, new world. C'était genre, attends, mais
voilà. Moi, ce qui m'a quand même interpellé dans cet article-là, c'est que React a 10 ans. Je pense que c'est le premier framework web qui souffle 10 bougies, hein, parce que souvent, Inès et Angular. Oui. Je pense qu'Angular, c'est plus vieux, effectivement.
Du coup, toi, tu partirais vers du React, toi. Genre, en tant que quelqu'un qui n'est pas forcément expert, tu pars direct vers du React ou...
Qui, moi?
Ben, je sais pas si vous...
Moi, j'ai pas eu le choix parce que c'est pas que moi je me suis pas dit parmi les trois quoi. J'ai fait du Angular mais quand c'était pas composant, quand c'était du contrôleur l'ancien paradigme. Après j'ai fait du React. J'ai fait du React avec Patternfly. Et en fait je trouve que c'est plutôt très facile à mettre la main là-dessus, et surtout depuis qu'il y a, parce que j'ai fait avant les hooks et use state et tout ça, la partie hooks pour ceux qui, j'ai fait sans hooks et avec hooks, enfin c'est vraiment super en fait. C'est moi je trouve que c'est super. C'est pas très compliqué pour rentrer dedans, pour devenir expert et faire un truc qui est vraiment bien. Ça c'est autre chose. Mais ouais, mais voilà, c'est pas la courbe d'apprentissage de React composant de React n'est pas énorme quand t'as déjà une librairie de composants sympa.
Ce qui m'a toujours fait un peu peur et repoussé un peu côté React, c'est nous à l'époque JSP et compagnie, on disait oui, il faut bien séparer les différentes couches, le CSS, le JavaScript, le HTML, etc. Et on a l'impression avec React et JSX, etc., qu'on remélange tout, là, du HTML dans du JavaScript, du... Enfin, ça me fait un peu peur pour la maintenance.
T'as vu comment c'est beau? Les JSP, j'aimais bien, en fait. Je fais du Corba aussi.
On n'est pas obligé de remonter si loin, mais en tout cas, j'ai peur pour la maintenance.
Alors, t'as déjà fait une syncope.
Personnellement, j'ai pas d'expérience avec React, donc je peux pas juger. C'est juste mon impression, les a priori que j'ai par rapport, évidemment, à ce que j'ai vu dans ma lointaine carrière.
Allez, en parlant de ça, on va faire les prévisions 2024 sur le front.
Il va faire froid.
Oui, c'est long. Oui, donc il y a quand même Angular. Côté Angular, on parle des optional zone .js. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. C'est toi qui sais, peut-être Guillaume ou Antonio. Personne sait ce que c'est.
Pas du tout.
On est vraiment calé en front, on voit bien. Ouais. Mais en tout cas, on parle de ça comme une prédiction côté Angular.
Puis pour ensuite, 2024.
Pour 2024, oui. Next.js qui a un nouveau compilateur et que donc apparemment il y en a qui en tout cas j'ai vu qu'il dans les prédictions qu'il y avait une partie qui disait pour l'utiliser plus pour faire du back-end directement en fait vraiment sans rien d'autre si j'ai bien compris et puis justement la partie React on parle bien de l'adoption de server components qu'on a juste discuté avant parce que les SPA ne suffit pas sur beaucoup de cas et puis après il y a des améliorations côté auto memorizing le fait de mémoriser des états des trucs comme ça et donc aujourd'hui il y a quelques hooks comme use callback et use memo qui seront dépréciés et après Solid 2.0 qui est un framework web apparemment pousse fort aussi. Un nouveau framework web côté front qui est une suite d'un autre framework qui s'appelle Solid Start. Pareil, pour faire de l'appli web. Voilà, juste à surveiller. C'est des noms à surveiller sur 2024.
Je ne sais pas si c'est parce qu'on baigne dans le monde du back-end. Peut-être que niveau back-end, on a autant de buzzwords, de mots, etc. Mais je trouve que côté front, c'est vraiment, c'est très très riche. Quand je vois Angular que je connais un peu, React que je connais un tout petit peu, Vue, et chaque année on a des nouveaux trucs. Et c'est pas des petites librairies quoi. T'es en train de parler Next, c'est un gros machin. Je vois un mec, il l'utilise chez nous. Je suis toujours assez émerveillé de voir cette richesse de framework web, mais enfin, imposant, quoi. C'est pas des tout petits trucs, quoi. C'est pas des petites mises à jour de librairie.
Juste pour en revenir à Angular, la zone, en fait, Zone.js, c'est un composant, une librairie qui est utilisée par Angular pour implémenter la notion de zone, un contexte d'exécution séparé. Et ils veulent pouvoir le rendre optionnel pour certains sites pour améliorer l'exécution, le time to first click et ce genre de choses, en fait.
C'est ça. En fait, dans les notes, je ne l'avais pas très bien noté. Et du coup, je me suis perdue par rapport à ça. Exactement ce que tu as dit, là, Emmanuel. Merci.
Cool.
Et par rapport au front, le back, oui, c'est juste que pendant une époque, on avait, je sais pas, une vingtaine, vous rappelez pas de Matt Rabel qui faisait comparing framework in the backend, il avait 20 à des tableaux de 20 frameworks différents dans lesquels c'est juste qu'en fait, à un moment donné, on a décidé que cette complexité pouvait plutôt se faire dans le front. Et que nous, on restait stateless. Et que
Bah, c'est sûr, il y a beaucoup de complexité. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, parmi les plus vieux écouteurs des cascodeurs, vous vous rappellerez peut-être une interview que j'avais fait avec Pierre-Yves et Romain sur Android. Et on discutait des concepts qu'ils avaient côté Android. Et je leur disais, mais ça, c'est les mêmes concepts dans Hibernate. Donc, en fait, il y a beaucoup de... En fait, on gère des états et de la donnée dans les deux cas. Et on voit que la montée en complexité et réutiliser les mêmes approches, les mêmes patterns entre les différents environnements. Donc, c'est ça qu'on voit. Et je suis d'accord avec toi, Katia, la complexité de l'état stateful au niveau la vue, quoi. Elle est partie du côté serveur, elle est partie et elle est côté client maintenant, ouais.
Mais du coup, nous, ça nous simplifie notre boulot, alors côté back, c'est bon, hein?
Non, parce qu'après on a cube, la distributed system, on s'est rajouté d'autres choses, quoi.
Ah, ouais. YAML aussi, tiens,
YAML, ouais, l'observabilité, c'est une quoi.
Non, mais YAML dehors en ce moment.
YAML pas mal, ouais. Tiens, allez, en parlant de grosses blagues, data et intelligence artificielle.
Oh, le passage à l'IA, en parlant de grosses blagues.
D'accord.
Il y a un tweet, un X,
il y en a pas qu'un des tweets, hein.
Qui parle de retour d'expérience, de faire du RAG avec tu vas me le redire.
Retrieval
le...
Augmented Generation.
Voilà, et en français récupération, augmentation de génération. Non.
Ils l'ont traduit au CNCF.
Non, génération de contenu par... Attends, retrieval, comment on traduirait ça? Par récupération de contenu, ouais, je sais pas trop. Ouais. Donc, c'est ce... Ouais, c'est le pattern de quand on a un large language model et qu'on veut qu'il puisse ramener, enfin répondre à des questions sur des documents, peu importe quel type de données qui ne sont pas dans ces données d'entraînement, mais qui sont par exemple les données, je sais pas, de ses clients, de sa documentation, des choses comme ça. En fait, on peut brancher en quelque sorte. Une base de données, en général les bases de données vectorielles, ou en tout cas qui supportent cette approche-là, pour essayer de faire une recherche. Donc on dit au LLM, voilà la requête de l'utilisateur, essaie de trouver dans la documentation, la base de données, etc., les données, les passages les plus pertinents qui correspondent à cette requête-là. Et du coup, on donne, voilà les passages au LLM, voilà la requête, maintenant, donne-moi la réponse en connaissance de cause par rapport à tous ces extraits que tu lui as donné là. Donc ça, c'est un pattern très commun qu'on va certainement voir beaucoup, je pense, aussi à DevOps France, là, dans les propals, etc. Et en fait, donc moi, pour l'avoir implémenté déjà, par exemple, je m'étais fait... j'ai une démo que je montre aux conférences qui est de pouvoir chercher dans la documentation de Groovy. Et du coup, je dis, voilà, comment on peut faire ça en Groovy? Et du coup, il va chercher des passages intéressants dans une base de données vectorielle, les retourner, et le LLM génère la réponse. Mais en fait, on s'aperçoit assez vite que ça retourne pas toujours des résultats pertinents, donc le LLM peut pas forcément donner toujours une bonne réponse. Et il y a plein de techniques, de patterns, d'approches pour essayer d'améliorer le résultat de la pertinence, en tout cas des résultats retournés par ce processus de recherche là. Donc par exemple, donc dans les tweets là, il y a un tweet sur chaque truc possible à améliorer et différentes approches. Donc par exemple, on découpe en fait par exemple un document en plein de petits morceaux et on va essayer de comparer la requête qui est demandée par rapport à ces différents petits morceaux. Mais en fait, comment on décide où couper, quelle devrait être la longueur des extraits? Parce qu'en fait, ça va pas donner forcément des extraits trop courts. Peut-être que la réponse va être coupée sur plusieurs extraits. Un morceau qui serait trop large, la réponse va vraiment être noyée dans ce chunk, ce morceau trop large. Donc, faut trouver la bonne taille. Et ça dépend aussi un peu des données qu'on met en entrée.
Oui, et puis est-ce qu'il y a le bon contexte pour comprendre l'ensemble dans ce petit morceau?
Exactement. Et du coup, par exemple, dans ce morceau-là, peut-être que c'est plus intelligent d'aussi rajouter, donc si c'est de la documentation, on va prendre cet exemple-là, le titre de la section dans laquelle on est. Parce que par exemple, ça va être, je sais pas moi, Implementing Records in Groovy, ça c'est le titre, Et ensuite, il y a l'explication. Mais peut-être que dans le petit morceau qu'on a mis dans la base de données, bah, s'il n'y a pas le titre, peut-être qu'on va manquer un petit peu de ce contexte-là. Donc, savoir où on se trouve dans cette documentation-là. Alors, des fois, ça peut être des métadonnées, ça peut être des choses comme ça, ou carrément mis à l'intérieur du chunk qu'on étudie.
Il expliquait aussi qu'à un moment, bah, si tu passes à du code de documentation, bah, est-ce que c'est un chunk séparé? Mais en tout cas, ces barrières naturelles dans la lecture, dans la structure, elles peuvent être intéressantes comme barrières des chunks.
Voilà. Et du coup, des fois l'explication, c'est alors dans l'exemple ci-dessous, on voit comment faire ci, et après on a l'exemple. Mais si on a deux chunks différents, peut-être que le petit extrait juste avec le code, bah, il va pas être retourné par la base de données vectorielle, par la recherche sémantique. Après, à ce niveau-là, je sais plus s'il le mentionne dans ce thread, mais il y a aussi des systèmes où on mixe un petit peu recherche par mots-clés, recherche sémantique, etc., pour avoir des résultats plus pertinents. Après, il y a d'autres choses qui sont un peu compliquées à faire, c'est que les données aussi évoluent au cours du temps. Donc, il va falloir réfléchir à comment faire en sorte qu'on mette à jour les calculs d'embedding, de vector embedding pour ces passage de documentation, parce que la documentation évolue. Là, c'était marrant sur Twitter, là, ces derniers jours, il y avait aussi Stéphane Janssen de Devox qui disait, ah oui, mais alors, par contre, là, quand Clever Cloud, il me redémarre mon instance, en fait, je recalcule tous les vecteurs, et quand j'utilise l'API d'OpenAPI pour calculer, pour calculer les vecteurs embeddings, ça commence à me coûter un peu cher, donc je me demande si je pourrais pas faire mieux, voir un petit modèle en local, etc. Donc ça aussi, il y a des choses, est-ce qu'il faut utiliser des modèles non locales ou des modèles différents d'embedding, parce que par exemple, pour Devox France, le modèle de base qu'il utilisait n'est pas forcément super en français, donc ne donne pas des bons résultats en français. Donc voilà, il y a tout un tas de... Alors je ne sais plus si tu en as vu d'autres qui étaient intéressants.
Exactement le même problème que Stéphane, c'est qu'il dit la fraîcheur des données, c'est un problème, mais en même temps, ça coûte à revectoriser. Ouais. Du coup, il y a un équilibre à donner. En plus, chaque source de données, quand on fait une composition entre un forum, un chat, etc., ils n'ont pas les mêmes façons de... pas la même rapidité de rafraîchissement, pas les mêmes API, etc. Donc, tout ça, ça rajoute de la complexité dans tout ce bousin que vous allez devoir vouloir coordonner.
Puis même sur la taille des extraits, c'est moi ce que j'appelle la densité d'informations. Tu vas prendre un livre de Proust, et tu vas avoir 3 pages pour dire je me suis
mangé une
matin,
madeleine.
Tu vois.
Non, en fait, t'as un bouquin pour j'ai mangé une madeleine.
J'ai mangé une madeleine, c'est tout un livre.
C'est tout un livre, quoi. Donc la densité d'informations, tu te dis peut-être qu'il faut que je fasse des chunks un peu plus gros que.
Ami littéraire, si tu nous écoutes, désolé.
Voilà, donc voilà, c'est une mine d'informations qui sont intéressantes à creuser. Ça mériterait peut-être un peu plus de liens aussi, parce qu'il y a des choses à faire, par exemple, comment reformuler les requêtes initiales, il y a plein d'autres choses super intéressantes sur ce truc-là.
Allez, on va faire une petite pause artificielle et on va parler juste de données. Donc Gunnar Morling, qui est un Java champion, créateur, enfin plutôt leader, ex-leader de Bisium.
Bitvalidation, spec lead de Bitvalidation à l'époque. Voilà,
de Datastruct.
Ex-redateur.
Mapstruct, ex-redateur. Qui a lancé un truc disant tiens voilà un challenge, vous allez devoir parser un fichier JSON et faire compter en gros les trucs, et sauf que la petite particularité c'est que c'est un milliard de lignes. Et allez-y, voilà la machine sur laquelle ça va tourner, genre 8 cœurs, tant de RAM, etc. Et faites-vous plaisir, montrez-moi avec le Java moderne comment vous feriez.
Et il montre quand même un petit algorithme de base qui prend 4 minutes, je crois. Ouais.
Là, pour info, triches un peu, que tu passes à 32 cœurs, on est en dessous de la seconde. Juste avec Donc, il y a plein de gens qui se sont pris au jeu.
Ouais.
Et c'est pas des gens...
C'est pas des branquignols. Hein.
C'est pas des branquignols, voilà. T'as les experts de perf. Je sais qu'il y en a de chez Red Hat qui se sont piqués au jeu, et d'autres ailleurs qui disent ah, tiens, je vais faire un memory map. Et puis attends, moi je vais éviter les branches if parce que ça ralentit. Donc, et là, ils se tirent la bourre du coup. Et puis surtout, ils explorent des nouvelles idées. Et donc, juste lire les échanges là sur Twitter, c'est une mine d'informations. J'espère qu'il fera un méga résumé ou une dizaine de blog posts de toutes les techniques qui ont été utilisées.
En fait. Et ce qui est rigolo, c'est quand tu vois, donc, Gunnar, il crée un petit algorithme, il vous donne aussi du code test, etc., etc. 4 minutes. Là, on en est à 3 secondes. Mais si vous regardez le code, bah, vous les embauchez pas, c'est des...
Ah bah là, pour le coup, c'est illisible. Ça, je comprends, hein, parce que moi, quand j'étais en entreprise à faire du écrit de code fonctionnel dans lequel les règles du business et machin, c'est super important de faire d'une manière, utiliser certaines, la manière dans laquelle tu vas coder, etc., machin. Après, je suis passée à faire un framework où le milliseconde et ça compte comme un infinite span, les réplications des données et tout. Et il y avait des moments dans lesquels je disais à Will, un gars de l'équipe qui est aux États-Unis, je disais, ah, tiens, mais on pourrait pas refactorer ces petits trucs pour que ça soit plus lisible en utilisant une lambda. Ça fait de la location de je sais pas quoi, nanana. Et pas de question. ça peut nous coûter de faire que la performance des
c'est pas beaucoup. Le même code qu'on écrit.
Ouais. C'est pas le même code, en fait. Le code, quand on veut que ça aille très, 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 très vite et c'est vraiment fondamental pour le business, ça, c'est pas pareil d'autres types de codes qu'on fait.
Mais rappelons-nous, c'est pas tout le code d'InfiniSpan, c'est des parties très spécifiques. Donc là, on ne peut pas se dire, ah tiens, je vais tout écrire en imbitable parce que ça sera plus rapide.
Non, mais il y a des parties qui sont très, très touchy et c'est où on peut pas se permettre chaque petit truc compte parce que c'est déployé sur des endroits dans lesquels les millisecondes, nanosecondes, ça peut avoir un impact vraiment important.
Allez, il y a Didier qui s'est fendu d'un article autour. Didier Girard, pardon. Du shadow, de l'intelligence artificielle de l'ombre.
Shadow AI.
Comme on avait le shadow IT, du coup.
Shadow IT, qui était, on en a parlé pendant quand même des années. Là, il y a Shadow AI. Et on voit de plus en plus dans les entreprises, et pas que d'ailleurs, les gens utiliser ChatGPT pour les aider dans leur boulot. Et sans forcément le dire à leur employeur. Et le problème de ça, c'est que en fait, vous envoyez des données, potentiellement, hein, des données de vos clients, des données internes de l'entreprise à des IA où vous savez pas forcément toujours quelles sont les conditions d'utilisation. Est-ce qu'ils peuvent réutiliser vos données pour l'entraînement de leur modèle ? Parce que le problème de donner les données qui, si elles sont réutilisées par le modèle, c'est que potentiellement le modèle pourrait recracher plus ou moins les données qu'il a lues lors de son entraînement. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des leaks de données qui se retrouvent, qui n'ont pas été prévues. Ouais. Donc ça, c'est un gros problème. Donc, faut vraiment savoir quel outil on utilise, et c'est mieux si après dans l'entreprise il y a une politique précise et que alors peut-être que la politique ça va être n'utiliser surtout pas les trucs comme ça, ou au contraire utiliser tel outil de tel provider, et voire même on vous donne un abonnement avec un compte avec machin parce que on a vérifié que c'était compatible en tout cas avec la politique de sécurité des données de l'entreprise. Donc voilà, faut faire attention à ce qu'on utilise.
Nous, et,
je sais pas vous dans vos entreprises, mais nous c'est pareil. Pas le droit. Alors utiliser les nôtres en interne, etc. Il y a pas de souci évidemment, mais utiliser ceux de la concurrence et autres, non. En tout cas pas pour faire notre travail, pas etc.
Oui, nous c'est pareil, on nous encourage à utiliser vos copilotes, mais on a le copilote Enterprise. Donc, mais effectivement, hein, à chaque fois qu'on a de la com interne, c'est surtout ne partagez pas de données lorsque vous utilisez des modèles externes.
Yes.
Mais on en revient à ce que les cascodeurs disent depuis le début, c'est qu'à un moment donné, tous ces outils, Bah, il faut payer hein, pour utiliser des outils, payer pour avoir un bon IDE, payer pour. Mmh. Et donc effectivement, bah, maintenant vous avez Google, Microsoft, OpenAI et tout ça qui ont des modèles des modèles d'entreprise. Donc vous payez et ils vous assurent que vos données liqueront pas.
Mmh. Yes. Encore un petit post sur generative AI. Et les LLM, donc là, je vais en parler, c'est un peu moi qui l'ai écrit. Donc, il y a une fonctionnalité, alors qui existe dans certains modèles, par exemple, qui est justement là, dans chez OpenAI. Enfin, il y en a dans plusieurs modèles, et y compris maintenant dans Gemini, donc le modèle de Google, c'est le function calling, l'appel de fonction. Donc, on avait parlé de RAG, par exemple, tout à l'heure, comment chercher dans des documents, dans des données. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est le fait que on n'est pas limité aux connaissances et aux données d'apprentissage du modèle, mais on peut lui donner des données fraîches et des données internes, etc., qui ne sont pas normalement accessibles au modèle. Et il y a aussi un autre aspect de ça, c'est quand on veut que le modèle soit un petit peu plus... Alors, on peut l'utiliser aussi, d'ailleurs, pour rechercher des données. Hein. Mais, par exemple, quand on veut faire des choses en temps réel, quand on veut lui faire faire des choses qu'il est... Enfin, des tâches auxquelles il n'est pas forcément très doué, des calculs complexes, par exemple, interpréter du code. Maintenant, ça commence à se faire pas mal, par exemple. Mais un exemple tout bête que moi, j'ai utilisé dans l'article, c'est pour montrer, bah, si on demande... à Bard, à ChatGPT, ouais, quel temps il fait aujourd'hui à Paris, ben, il n'est pas branché forcément sur l'API de Météo France, donc il ne va pas savoir comment répondre. Ou alors il va dire, ah, en général, en hiver, il fait plutôt gris, plutôt froid, ou un truc comme ça, mais il ne va pas te donner la météo du jour. Donc, cette notion d'appel de fonction, en fait, ça dit au modèle, donc quand on interagit avec lui, quand on crée la conversation avec lui, on lui dit, tiens, potentiellement, il y a tous ces outils, toutes ces fonctions que tu peux appeler. Donc, si à un moment, tu vois qu'on te pose des questions sur la météo, eh ben, sache qu'il y a un outil, une API que tu peux appeler de météo, et tu pourras poser la question à la... Enfin, c'est pas le LLM, d'ailleurs, qui va poser la question. Le LLM va dire, ah oui, tu es en train de poser une question sur la météo, donc ce serait bien que tu appelles, toi, l'intégrateur du LLM, que toi, tu appelles la fonction getWeather qui prend Paris, enfin location égale Paris, et tu fais cet appel-là, et tu me retournes le résultat que tu as. Et donc, quand on intègre le LLM, quand on reçoit la demande d'appel de la fonction, on appelle la fonction, on récupère les résultats, et on redonne les résultats au LLM. Et le LLM, donc on lui redonne, ça ressemble à du JSON en quelque sorte, le LLM il va dire, ah oui, alors là, location de point Paris, température de point moins 2 degrés, le ciel sunny, etc. Et bah du coup, je peux répondre, ah oui, en ce moment, il fait beau à Paris. Et il va être capable d'extrapoler la réponse par rapport à ces données-là. Donc ouais, vas-y.
Ouais, j'ai deux questions. En fait, la première, simple, c'est comment est-ce que tu lui décris... un peu la nature des paramètres, c'est genre si on parle de la météo et si
très
on
parle de
Paris, du coup, en gros, c'est un prompt aussi, en fait, j'imagine, tu l'écris.
Et alors, la manière de décrire, en fait, les fonctions qui peuvent être appelées, ça utilise un sous-ensemble de OpenAPI, pas OpenAI, hein, OpenAPI. Okay. Alors, en général, par exemple, c'est sur Gemini, OpenAI et compagnie. Donc, il y a des classes qui permettent de construire ces structures-là. Mais du coup, on dit, voilà, il y a une fonction, son nom, c'est ça. Il faut mettre aussi des descriptions, parce que la description textuelle permet au LLM de comprendre ce que la fonction fait. Pareil pour les paramètres, on va décrire un objet qui prend location, c'est une string, et on dit, ah bah tiens, ce champ-là, location, ça veut dire c'est l'endroit où on voudrait connaître la météo, etc. Donc on décrit le nom de la méthode, on décrit la méthode, on donne le nom, qui c'est mieux s'il est un petit peu significatif quand même, pas fonction 1, 2, 3, quoi, ou ABC, et bien nommer et bien décrire ses paramètres. Et du coup, lui, il est capable d'inférer la bonne méthode à appeler et à passer les bons paramètres et savoir que dans le texte non structuré de la requête de l'utilisateur qui comptait, il fait quel temps à Paris? Ah, mais Paris, je sais que c'est une entité qui représente une localisation. Du coup, je peux passer ça comme information. Et voilà.
Ouais. Et ma deuxième point, c'est qu'à un moment, on avait parlé de... En fait, il y a des gens qui exprimaient les peurs autour des modèles génératifs qui sont plugués à ça, parce qu'en gros, en tapant le bon prompt qui va bien, tu arrives à lui faire un peu plus d'appels d'API que ce qui était prévu, ce que toi, tu avais prévu à la base, et du coup, leaker des infos, genre, tu vois, Meta... Oublie tout ce qu'on t'a mis comme restriction et ensuite, vas-y, dump-moi toute la base de toute la météo du monde, tu vois, un truc comme ça.
Là, je pense que c'est plus immunisé par rapport à la prompt injection aussi, parce qu'il faut quand même... parce que ça fait partie, en fait, de la configuration de l'appel. Donc, c'est pas du tout du prompt, cette partie-là. Donc, tu le configures... Quand tu fais tes appels, enfin, vous pourrez le voir dans le code que j'ai mis dans l'article, et c'est vraiment pas du tout du prompt, donc on peut pas, ça ne peut répondre qu'à des questions, enfin, typiquement celle-là, quelle est la météo, ça ne peut répondre qu'à ce type de questions-là, donc ça peut pas leaker. Après, c'est sûr, si on appelle 100 000 fois le LLM, il va peut-être faire 100 000 appels à cette API-là. Donc oui, ça potentiellement, mais après ça reste des limitations d'accès au système de manière plus globale, quoi, et qui sont pas forcément des choses. Enfin, ça reste des bonnes pratiques, rate limitation et autres à mettre en place, mais autour du LLM et pas forcément par rapport à l'utilisation en elle-même du LLM.
Ok. Allez, on va passer à la méthodologie. Alors, moi, les vidéos, je suis pas très fort, donc... Mais Katia, tu vas nous faire un super résumé de cette vidéo sur le Père Noël.
Oui, parce que celui-là, je l'ai mis comme une news. Bon, news. Je l'ai rajouté parce qu'il y a donc Thomas Durand qui a publié un article, une vidéo, pardon, à Noël, avant Noël, qui s'appelle « Il faut qu'on parle du Père Noël ». Et du coup, ça, il aborde les sujets de comment on sait. Ce qui m'a beaucoup apprécié de la vidéo, c'est qu'en plus c'est vrai, il dit que c'est les plus gros complots sociétal, planétaire, le Père Noël, parce que tout le monde est dans l'eau. Les adultes, les médias, les boutiques. Tout le monde, tout le temps, de partout, acquis sur ce fait que le Père Noël existe. Et que du coup, en fait, les enfants, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'en fait, toutes leurs références de données, des sources de données fiables et stables, leur confirment, reconfirment en permanence que le Père Noël existe, en fait. Et en fait, la magie, ça fait partie de leur vie. Et du coup, pour eux, c'est normal, en fait, que c'est un truc, ils s'expliquent tout ce qui est inexplicable par la magie. Et c'est vraiment à l'âge de la raison, donc quand ils sont 7 ans, à peu près, que les enfants commencent à se poser d'autres questions et à se rendre compte que peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Et donc là, c'est qu'on leur explique, bah oui, en fait, en effet, maintenant tu fais partie du complot aussi. Et en fait, c'est vraiment très très bien expliqué. Je vous conseille de la vidéo. Et ce qu'il dit, c'est que vraiment c'est un bon moment pour justement aborder la notion du esprit critique avec les enfants. Parce qu'en fait, moi, il y a eu une époque que je me disais, ah oui, j'ai beaucoup d'esprit critique parce que j'étais capable de critiquer beaucoup des gens. Alors que c'est pas ça l'esprit critique.
Alors, je crois que t'as bien beaucoup de gens sur
voilà. Voilà, mais c'est pas l'esprit ça l'esprit critique, c'est critiquer sur ses propres. Voilà,
l'esprit du doute, en fait.
Oui, c'est se mettre des doutes sur ses croyances à soi-même. L'art du doute. Être capable. Ouais. Être capable de vraiment, sur soi-même, sur les autres, on est tous très forts, c'est sur soi-même qui est plus challengeant. Et donc, voilà, je vous conseille cette vidéo parce que elle est marrante et c'est assez bien expliqué. Et donc, on peut passer après ça à la loi société.
Attends, juste avant, là, il y a un truc que je trouve beau, c'est que, en fait, le gamin, il se met à comprendre ou utiliser intuitivement la logique.
Oui.
Et là, il finit par dire, attends, là, il y a un truc, il y a une incohérence, en fait. Et c'est là où le truc, il craque et qu'il va te demander, mais attends, mais le Père Noël, il existe vraiment. Et en fait, et c'est beau, tu vois, que malgré tout ce renforcement de biais, de conspiration pro-Père Noël, complot. À un moment, il trouve un truc qui, tu vois, qui est pas cohérent avec la réalité. Donc, sur quelques autres trucs qui sont ancrés, il dit, mais attends, mais C'est pas possible.
C'est quand ils commencent à voir la magie, que s'il y a des choses qui collent pas, que peut-être la magie, quand ils sont plus petits, c'est des partout, dans toutes les contes, tout expliqué par là. Mais quand ils voient, ok, mais la magie, attends, c'est pas possible. Et c'est là, en fait, que la conversation est abordée. Mais c'est un bon moment, justement, pour, en effet, pour dire, ok, il y a tout le monde qui te dit un truc, tu le crois vraiment très fort. Ouais. Mais comment tu peux faire pour challenger ces croyances? Donc,
c'est un bel espoir, tu vois. Oui. C'est faisable, tu vois, un enfant de 7 ans y arrive.
Oui, oui, c'est faisable. Et moi, d'ailleurs, j'ai eu cette conversation, ma fille, elle a 7 ans, elle va avoir 8 ans là, en mars, et j'ai abordé ce sujet avec elle juste là. Et c'était vraiment très marrant, parce qu'en plus, la petite, du coup, elle ne savait pas, et je lui ai dit, bon, bah, Yana, alors, bah, dans le complot, maintenant, tu ne dis plus rien pour Elaya. Et là, direct, elle dit, oui, mais dit, oui, je ne dis plus rien. Elle se tourne vers sa sœur et elle dit, je sais un truc que tu ne sais pas. Ok, super. Donc j'ai mis aussi la petite dans le complot parce que c'était pas possible de tenir ça plus longtemps.
Tu vas ruiner tous les sa classe de 4 ans. Tu sais.
Non, elle est plus grande, mais elle est contente d'être dans le complot aussi. Donc elle a compris. Elle va avoir 6 ans. Okay. Et donc là, on peut avancer à loi, société, organisation. Et donc là, c'est autre chose que j'ai pas mis. D'ailleurs, c'est je pense que c'est Guillaume ou c'est toi.
Ah non, je crois parce qu'on avait parlé que il y avait un truc pour résumer, on n'avait pas trouvé le lien l'épisode d'avant et je crois que du coup c'est ça.
Ah oui, c'est ces liens là. Ok, les United States AI Act cheat sheet. C'est ça.
Non, pas United States, c'est European AI.
Ah, pardon, United States, n'importe quoi, pardon, EU. United States, en fait, pardon, excusez-moi, je lis en 3 langues et c'est compliqué parfois dans ma tête. Ce qui se passe dans ma tête, ça va pas. OK, c'est European AI Act Cheat. Et donc aussi que, ça va un peu en lien à ce qu'on a parlé tout à l'heure, que ChatGPT n'est pas un super médecin.
Ouais, du coup, juste le résumé du cheat sheet, bah, vous irez dessus, mais ça explique un peu les niveaux différents et les restrictions supplémentaires en fonction de l'usage, en fait, qui en est fait, dessus. Donc, c'est un lien de Yann Lequin. Ouais, ChatGPT n'est pas un super médecin, donc il y a des gens qui ont fait une étude en demandant à ChatGPT basée sur des symptômes, en copilote, et ils trouvaient que les informations étaient un peu trop non déterministe dans les réponses à la même question. Donc, en fait, tu lui poses la même question, genre, mais telle personne, elle a ça, ça et ça, c'est quoi son problème? Moi, j'exagère parce que c'est pas l'exemple, mais il y en a un, il avait le cancer et l'autre, il avait un rhume, quoi. Voilà. Donc, j'exagère. C'est parce que c'est juste prends ça pour pousser le modèle. Mais en tout cas, il y avait que 41% des réponses qui étaient dans le consensus médical. Donc après, ils ont posé la même question à un pool de médecins pour avoir un consensus. Et il y avait même 7% des réponses qui étaient dangereuses, en fait, pour la personne.
Ah oui.
Et c'était intéressant parce que faire du RAG, dont on a parlé un petit peu là, dans cet épisode, a monté la qualité, mais pas tant que ça, en fait. A monté que de 5%. Donc c'est pas non plus une solution miracle. Ça a l'air de bien marcher pour les docs et les choses qu'on voit, mais là, visiblement, pour savoir de quoi vous souffrez et comment vous soignez, il y avait une petite difficulté.
Voilà. Après, dès que tu lui poses une question de « j'ai ça et ça, qu'est-ce que j'ai ?» la première chose qu'il dit, c'est « écoute, va voir les médecins, je ne suis pas médecin, gna 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 ». Donc, à chaque fois, il y a ça. J'ai fait un test justement pour un truc moi-même. Et voilà, à chaque fois, dans toutes les réponses, c'était « mais peut-être que c'est ça, on ne sait pas, mais va voir les médecins. Je ne suis pas médecin, va voir les médecins ». Donc, ça, c'est plutôt rassurant que c'est dit par défaut, quoi.
Oui, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai de plus en plus de personnes en dehors de l'IT, hein, des cousins, des potes et des machins, qui te disent bah l'IA l'a dit, c'est que c'est vrai. Enfin, on a un peu le syndrome de l'internet. Ouais. Si c'est sur internet, c'est que c'est vrai. Maintenant, on commence, c'est le balbutiement de l'IA l'a dit, donc c'est vrai.
Allez, on va passer à la conférence donnée à la PGConf. US Europe.
Not United States, Europe.
Qu'est-ce que Postgres est dans l'Europe. La section loi, société et organisation, Katia?
Ah, bah, voilà, parce que Postgres, à PostgresQL, il y a eu Laetitia Avro et Karen Jex, qui sont toutes les deux deux expertes de Postgres, et qui se sont habillées avec la robe de Barbie du film. Et qui ont fait un super talk qui s'appelle Trying to be Barbie in Ken's Mojo Dojo Casa House. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est que Ken, à un moment donné, Ken, il est un peu rien dans l'écosystème Barbie. Les Barbie, c'est les chefs de tout. C'est celui qui est, Ken, il fait que de la plage. Il va à la plage et c'est tout.
Ouais,
mais à un moment donné, il y a un switch. Voilà. Et à un moment donné, il y a un switch dans le film et il comprend, Ken, il va dans la vraie vie, il voit que dans la vraie vie, c'est plutôt l'inverse, en fait, que l'effet d'être un homme, c'est voilà. Du coup, il revient avec toutes ses idées, sur l'écosystème, pas sur le monde de Barbie, et il crée une espèce de maison qu'il appelle, moi j'ai créé ma maison, donc il y a dans les Barbie, il y a la maison de Barbie, Ken il a pas de maison, mais donc il crée sa maison qu'il appelle Mojo Dojo Casa House de Ken. Et en gros, ils utilisent un peu tous les trucs du film, mais il n'y a pas besoin de voir le film. C'est une conférence en sociologie. Et du coup, ils disent bien, ce n'est pas parce que quelque chose est vrai pour la majorité des cas, il est considéré une vérité en sociologie. C'est parce que ça se repose sur des données statistiques. Je veux dire, c'est un peu pour dire, OK, peut-être qu'on va parler de certains problèmes et vous les faites pas individuellement, mais collectivement, c'est un truc qui est vrai parce que les statistiques le montrent. Et donc, leur but dans cette conf, c'est vraiment de susciter l'attention sur un problème qui existe dans la tech, sur le fait que qu'être une femme dans la tech et être confrontée au quotidien par rapport à ça est épuisant. C'est très, très bien documenté. C'est talk, il est super en fait. Il y a beaucoup de documentation sur toutes les choses qu'elle partage. Elle parle aussi de leur expérience personnelle, mais ça s'arrête pas là. C'est vraiment quelque chose, voilà. Et puis et du coup, elle parle aussi de pourquoi c'est important en fait de pas faire non seulement d'attirer plus de femmes dans la tech, mais aussi de ce qu'elles sont là. Pas les faire partir parce qu'elles partent beaucoup plus. C'est parce que en fait on a un déficit des talents en technologie et des plus en, on aura besoin du coup de plus en plus de gens et en fait niveau femmes il y en a de moins en moins. Donc le déficit va se accroître vers le bas, donc va décroître. Et voilà, elle parle de ça. Et puis il y avait un truc qui moi j'ai bien aimé. Parce qu'ils disent à un moment donné, ils ont donné aussi des talks techniques, mais ils disaient en fait pour nous c'est beaucoup plus difficile de se mettre en avant et de parler de ça que de venir donner un talk technique. Donc c'est beaucoup plus dur de faire ça que de venir juste parler de PostgreSQL. Donc c'est très encourageant.
Oui, parce que c'est pas leur métier.
Voilà. Mais c'était assez important de le faire. Et puis, il y avait un truc aussi que, du coup, j'aimerais vous partager. Parce qu'elle a dit, dans la présentation, elle dit, je suis une femme et je n'inclus généralement pas cette information lorsque je me décris. Et parce que je ne pense pas que cela soit particulièrement pertinent pour le travail. Et moi, du coup, j'ai trouvé ça bizarre. Et je vais vous raconter pourquoi. Parce que moi, j'étais freelance il y a quelques années, dans une équipe de 3 freelances, et on faisait une refonte complète d'une appli. Et un jour, le directeur technique est venu avec un nouveau freelance qui nous dit « Ok, voici Michel Dupont, ex-CTO de la startup, on est trop cool. » Je l'ai appelé comme ça parce que je ne me souviens pas. Et il dit « Voilà, son startup est actuellement au NPA et il va rejoindre l'équipe data, blablabla. » Au NPA, vous savez ce que c'est ?
Non.
Au NPA,
on
n'a
pas d'argent. Au NPA, on n'a pas d'argent. Et du coup, on lui dit, voilà, bonjour Michel, bienvenue. Et donc, le CTO, le directeur technique reprend. Michael, je te présente l'équipe. Nathan, c'est l'expert Scala. Les flat mark killers, Flapmat Killer. Voici François, l'espère angular de l'équipe. Les single page up sont pas de secret pour lui. Et voilà Katia, la fille de l'équipe.
Ah, la fille de l'équipe, ouais. Ah oui, pas mal. Donc, pas mal.
En gros, bah voilà, dire que c'est pas important de dire que t'es une femme, alors que c'est vraiment ton expertise technique.
C'est ton expertise technique.
C'est bizarre. Enfin, moi, ouais. J'ai fait toute ma carrière en appuyant sur ça, tu vois. Moi, tu viens et tu dis, bah, je suis une femme. Ah, bah, voilà, voilà. Et en fait, le mec, le freelance, il a répondu en rigolant. On en avait une aussi à On est trop cool, les startups. Je vais dire, et du coup, tout le monde a rigolé, c'était très marrant. Moi, j'ai pas rigolé, mais okay. Les autres ont rigolé. Voilà, ce que je vais dire est que ce sujet, pourquoi je me suis étalée là-dessus, c'est parce que c'est important et c'est un truc qui n'est pas de l'ordre de l'exception, en fait. Être une nana dans la tech, c'est difficile parce qu'on est confronté à ce genre de trucs. Et là, c'est un petit exemple que je mets des mois, mais on est confronté sur ça en permanence. Et j'ai eu beaucoup de chance. Et je parle d'une position de privilégié. Je suis là avec vous, en fait. Donc, je suis beaucoup plus privilégié que d'autres femmes, en fait. Mais voilà. Donc, je le laisse là. Et on peut passer à un autre sujet.
Ouais. Eh ben, il y a le New York Times qui porte plainte contre Antonio et OpenAI.
Oui, alors j'ai pas le même compte bancaire que le New York Times, donc ça va être vite plié. Mais effectivement, enfin ça, on en parle depuis un petit bout de temps. Souvenez-vous de GitHub Copilot. On se disait oh là là, on a entraîné Copilot sur du code où il avait pas le droit, etc., etc.
Sur des licences qu'il respecte pas.
Sur des licences, voilà. Donc le New York Times là porte plainte contre OpenAI en disant bah. En plus, là, vous savez, avec GPT-4 Turbo, la fraîcheur des données remonte au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Donc, on est très très loin du septembre 2021. Donc là, on a des données fraîches. Et puis, effectivement, bah, le New York Times se rend compte que quand on pose des quelques questions à OpenAI, il recrache un peu texto. Des bouts d'articles sans les citer. Voilà.
Ouais. Et beaucoup de bouts, en fait. Enfin, en tout cas, ils ont trouvé certains usages où c'est vraiment beaucoup de bouts, quoi.
Voilà, je pense que si tu dis Once Upon a Time, il était une fois, là, il y a un corpus énorme. Et donc là, c'est très compliqué de retrouver les sources parce que statistiquement, on doit avoir des millions de il était une fois. Mais si c'est quelque chose qui s'est produit il y a quelques mois à peine, de très très précis, où t'as pas énormément de sources, tu vois, t'as des milliers de sources comparées à des dizaines de millions, bah effectivement, c'est un peu du copier-coller et ça ne cite pas les sources. Donc bon, après je vous avouerai que j'ai pas suivi le procès, hein. Je sais même pas.
Mais ça commence, mais celui-là, il est vraiment. Je crois qu'il y en avait eu un déjà, mais qui avait pas de preuves aussi solides qui avaient été amenées. Après, ce qu'amène le New York Times, c'est tous les points, tous les exemples où OpenAI entre guillemets, enfin, est tombé dans le panneau. Où ChatGPT est tombé dans le panneau, mais du coup, il a l'air quand même beaucoup plus solide en termes d'évaluation. Donc, ça va être peut-être, je sais pas si c'est celui-là ou un autre, mais c'est un potentiel procès qui va définir en fait l'usage que les intelligences artificielles pourront faire des sources. Quoi. Donc, à suivre surtout.
OpenAI a répondu sur son blog quand même. Est-ce qu'il y a des petites choses qui sont peut-être pas forcément non plus très correctes, parce qu'en fait, par exemple, OpenAI discutait quand même avec le New York Times justement pour établir des partenariats, des choses comme ça. Et donc c'est un peu bizarre quand même qu'ils te poignardent après dans le dos en quelque sorte en disant. Oh,
mais je crois qu'ils ont essayé, mais que le prix était pas comme il faut, et donc après
c'est peut-être ça. Ouais.
Ils s'entraînaient déjà sur les infos du New York Times.
Après, c'est le deuxième argument qu'il disait, c'est donc l'entraînement, c'est fair use, c'est-à-dire c'est un peu comme, je sais pas, tu es peintre, tu vas dans les musées, tu vas regarder comment Picasso a fait ses tableaux, et après tu reproduis le même style. Bah ouais, tu t'inspires, tout le monde s'inspire hein, de ce qu'on a appris auparavant. Ça veut pas dire qu'on recopie. Si par contre il y a régurgitation, c'est vrai, mot pour mot. Comme ça semblait l'être, là c'est peut-être un petit peu trop. Mais du coup, là, OpenAI dit oui, justement, la régurgitation, c'est pas normal, c'est considéré comme un bug, et c'est ce qu'on essaie faire tendre vers zéro pour que ça n'arrive plus. Mais voilà, donc c'est aussi peut-être des améliorations techniques à faire pour en arriver
là. Mais est-ce que paraphraser un article du New York, en tant qu'humain, est-ce que paraphraser un article du New York Times sans dire que ça vient du New York Times, c'est fair use?
Les problèmes, ce qu'il disait, c'est qu'il y a des articles qui étaient payants. C'est plutôt cela, en fait, qui posait problème. Qu'il y a des souscriptions à payer et qu'il y avait des morceaux des articles payants qui sortaient et qui, en plus, n'étaient même pas référencés, en fait.
Mais il y a un double jeu quand même, je trouve, de ces plateformes-là. C'est-à-dire, le New York Times s'est fait déjà payer par ses abonnés pour lire ses articles. Et néanmoins, il ouvre au moteur de recherche le droit d'indexer ce contenu-là pour que les gens puissent tomber sur cet article-là. Donc, ouais. Si tu veux pas que les moteurs de recherche, y compris ceux des GPT et autres, puissent accéder à tes données, ben tu les autorises pas à accéder les données. Et dans l'article justement d'OpenAI, enfin c'est pas que je veux défendre OpenAI, mais j'ai l'impression quand même que c'est un procès un petit peu à charge. Alors c'est bien, je pense qu'il y en ait un parce que ça va permettre de rediscuter.
Moi j'adore personnellement. Hein. Moi je suis.
Alors ne serait-ce que pour le feuilleton.
Moi j'adore d'avoir ce genre de trucs, hein, mais parce que mais moi le drame, bien... au moins un drame et je vis.
Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que ça va faire discuter les gens, réfléchir. Est-ce que les lois du copyright ont besoin d'être revues ou pas? Par exemple, au Japon, ils ont dit, alors peut-être parce qu'ils ont un retard technologique sur les LLM et tout ça, mais ils ont dit non, au contraire, entraînez sur tout ce que vous voulez. Le copyright ne s'applique pas pour l'entraînement des LLM. Peut-être que voilà, dans certains pays. Ça va être complètement autorisé, dans d'autres non. Est-ce que voilà comment ça doit évoluer au cours du temps, quoi. Donc c'est un truc à suivre et je pense que ça va être intéressant. Et l'article, alors je ne sais pas, c'est sur Twitter où ils avaient l'air de dire que ils ont vraiment forcé la main pour arriver à ce qu'ils régurgitent autant et aussi précisément l'article en question.
C'est pour ça que je pose la question du paraphrase, parce que en gros, si tu te fais choper par ton prof en ayant paraphrasé il va te défoncer, quoi.
Ouais.
Mais après, c'est pas la loi, ça. C'est juste
moral, quoi. C'est clair.
Bref. Allez, je vous ai rajouté un petit outil de l'épisode parce que je travaille sur le CFP là de Devox France et j'aimerais que l'interface, enfin on a changé de CFP, j'aimerais que l'interface soit plus adaptée à moi. Et du coup, j'ai toujours entendu parler des user scripts qui sont des scripts JavaScript ou CSS que vous allez... C'est une extension de votre navigateur qui va injecter du CSS ou du JavaScript sur un site donné que vous rendez, donc juste pour vous. Et du coup, vous allez pouvoir adapter un peu le site web. Et du coup, il y en a pour Firefox, il y en a pour Safari, il y en a pour d'autres. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un espèce de standard sur la façon d'écrire le script en disant le script, il cible tel... page web, il est à telle version, l'URL pour le télécharger est à tel endroit, donc ça c'est un peu standardisé sur j'imagine le leader historique du marché. Et du coup je me suis pris au jeu à écrire un script pour mes petits camarades du CFP si ça les intéressait d'avoir aussi ça. Du coup je l'ai poussé sur GitHub. Et en tout cas, voilà, moi j'utilise UserScript de QUOID / user scripts pour Safari. Ce qui est cool, c'est que ça marche sur iOS, enfin sur votre téléphone, sur votre tablette et sur Mac, pourvu que ça soit à Safari. Et puis vous pouvez faire rafraîchir le petit script basé sur la version et il va toujours le garder à jour. Et puis sur Firefox, il y en a d'autres, Temper Monkey et ce genre de choses. Et moi, il y en a un que j'utilise qui s'appelle Stylebot. Alors, il va pas télécharger le script, malheureusement, mais par contre, il a un éditeur en ligne. Et du coup, je peux littéralement faire mes expérimentations de hacker CSS pour arriver à ce que je veux. Et donc, je me suis pris au jeu. J'ai perdu pas mal, probablement plus de temps que ce que je vais en gagner en ayant une interface un peu plus alignée pour moi. Mais après, j'étais plus content et... de faire toutes les évaluations que l'on va avoir à faire dans les prochains jours. Mmh. Voilà, donc je vous rappelle à votre mémoire cette notion de user script qui permet de... Je crois que l'historique, c'est GrisMonkey, voilà, qui permet de changer un peu comment un site web réagit, mais juste pour vous. Voilà, maintenant, on va passer à la rubrique des débutants.
rubrique débutant. Du coup, c'est mes deux codes labs là que j'ai publiés sur l'utilisation du framework LangChain4j et en utilisant le LLM Palm de Google. Alors, je l'ai pas mis à jour encore avec Gemini, mais j'en ferai aussi avec Gemini. Et du coup, là, j'explique comment faire tout un tas de choses avec le LLM, comment coder ça en Java avec le super framework LangChain4j. Donc, par exemple, extraire des données, bon, répondre à des questions simples, classifier du texte, etc. Donc, plein de petits exemples de choses qu'on peut faire avec les LLM et avec LangChain4j.
Oui, et pour finir, c'est que il y a le Google Summer of Code qui a ouvert pour qu'on puisse proposer des petits projets, des contributions à nos différents projets open source et avoir un étudiant ou une étudiante qui va contribuer pendant l'été. Donc voilà, c'est ouvert pour candidater et pour ceux et celles qui voudraient passer, du coup, au lieu de se noyer sur la mer, se noyer sur Stack Overflow. Ils peuvent participer quand il y aura les différents projets et postuler pour cet été faire ça aussi. Donc, voilà. Plage, repos et programmation, le rêve des vacances pour cet été.
C'est ça. Voilà, sinon, grâce à l'information qui est collectée par Aurélie Vache, nous avons la liste des conférences, donc fin janvier, Snowcamp, Agile Le Mans début février, DevFest, Touraine Tech, Scala IO à Nantes, Flowcon, ça y est, on commence à être en mars, PG Day, donc pour Postgres, App Developer Con, qui est en même temps que...
Plein de trucs cloud native tout en
plein ensemble. Des ouais, cloud cube
cloud native cube, cloud. Foundation Day enfin non ça s'appelle pas comme ça mais en gros il y a tous les tout le toute la le show les CNCF sous, et en l'occurrence c'est à Paris
le 19 mars
porte de Versailles voilà donc un gros truc Istio oui. Kubeflow Kubernetes multi tenancy observability etc donc tout ça bizarrement c'est le 29 mars mais c'est au même endroit donc
ouais, voilà. Des place to be pour les DevSec Ops c'est ça
DevSec ouais. Ah, qui font du YAML
et après il voilà. Y a DevOps qui voilà. Va arriver donc
DevOps voilà. France ouais DevOps France 10 et 19 avril, DevOps Grèce 18-20 avril, si vous préférez trop chaud. React Connection et React Native Connection le 23 avril à Paris aussi, etc. etc. Et Mixit, évidemment, qui est pour une fois pas en même temps que DevOps France. Donc,
c'est une bonne nouvelle, ça.
Ouais, c'est cool. C'est cool. Allez, puis la suite, on vous laisse la lire. Voilà, bah merci de nous avoir suivis. Merci
plein de
à mes
bonnes
camarades
résolutions
d'avoir
pour 2024.
Cet épisode. Pardon ?
Plein de bonnes résolutions pour 2024.
Voilà, et surtout, ce que je vous souhaite, c'est de ne pas avoir une année pourrie. Voilà, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Voilà, allez,
une année pourrie. Allez, merci de tout ça.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.